Alors, permettez-moi de renouveler la bienvenue à Alpha Goerjo dans ce Conservatoire des Arts et Métiers et dans le cadre de l'Université de tous les savoirs, et de présenter brièvement votre carrière qui est fort large et fort importante, puisqu'elle elle s'est traduite à la fois par une activité en France, mais aussi aux États-Unis. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en philosophie des sciences. Mais vous êtes aussi, et j'insiste sur ce point parce que c'est une particularité qui vous appartient, à la philosophe que vous êtes, médecin spécialiste attaché à l'assistance publique de Paris, et vous dirigez par ailleurs l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Vous imaginez que sur cette question, à la fois votre apport de philosophe et de médecin fait que nous attendons beaucoup votre réflexion sur l'investigation sur l'être humain.
Et c'est sans doute à cause de mes fonctions de médecin que j'ai resserré le sujet proposé autour de l'investigation scientifique sur l'homme. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai resserré le sujet proposé, en fait, pour deux raisons. D'abord parce que nous avons tous aujourd'hui de bonnes chances d'être un jour inclus dans un protocole de recherche, soit à l'occasion d'une maladie. On sait que la plupart des malades atteints de cancer ou de sida sont dans des protocoles expérimentaux, et c'est vrai pour beaucoup d'autres maladies, soit parce que, sans être malade, nous pouvons nous porter volontaires pour participer à des essais de nouveaux vaccins, par exemple, soit encore parce qu'en étudiant en psychologie, on nous offrira des points supplémentaires à l'examen si nous nous prêtons à certains tests expérimentaux, etc. D'après une estimation du ministère de la Santé qui date de 1996, il y aurait actuellement en France au moins 850 000 personnes par an, rien que pour la recherche biomédicale, qui sont sous protocole de recherche. Ce n'est donc pas du tout une situation rare. Et d'autre part, seconde raison, nous pouvons aussi être appelés à siéger dans un comité consultatif de protection des personnes de la recherche biomédicale. C'est le nom français des comités d'éthique recherche qui examinent les protocoles de recherche avant leur mise en application. Et la question que je me suis posée à l'occasion de cette conférence, c'est la question de ce que tout citoyen doit savoir à propos de l'investigation scientifique sur l'être humain pour exercer ses droits et ses devoirs de citoyen. Je traiterai la question en 7 points. Et voilà le plan. Je donnerai d'abord une image de la situation de l'expérimentation au début du siècle, essentiellement en médecine. Puis, par contraste, je donnerai les grandes lignes de la situation objective aujourd'hui, à la fin du XXe siècle. Troisième point, je montrerai quelles ont été les étapes de l'élaboration d'une éthique de la recherche sur l'homme au cours de notre siècle. Je dégagerai, quatrièmement, les grands principes de cette éthique de la recherche. Je ferai un aperçu sur les sciences du comportement humain qui se sont intéressées à l'éthique de la recherche après les sciences biologiques et médicales. Mon sixième point sera l'ouverture brève aux nouvelles questions qui, en notre fin de siècle, assaillent l'éthique. Et mon dernier point conclusif sera sur le vécu des acteurs actuellement dans l'expérimentation humaine. L'idée directrice de cet exposé peut être empruntée à un rapport du Comité national d'éthique qui disait « Chercher à connaître scientifiquement l'être humain est un bien, mais cela ne peut se faire au prix de la justice, de la sécurité ou de l'autonomie des personnes ». Et d'abord, quelle était, pour mesurer notre chance, la situation au début du XXe siècle? Vous lisez? Est-ce clair? Nous avons sur cette situation le témoignage d'un jeune médecin élève de l'école de santé de la marine, qui a travaillé à l'Institut Pasteur de Bordeaux et qui, en 1905, a soutenu une thèse de médecine devant la faculté de médecine de Bordeaux. Cette thèse s'intitulait « De l'expérimentation sur l'homme, sa valeur scientifique et sa légitimité ». Cette thèse est extrêmement documentée et elle nous donne un tableau vivant des problèmes agités autour de l'expérimentation humaine au début du XXe siècle. Première constatation de Bongrand, l'expérimentation humaine existe au début du XXe siècle. Claude Bernard, à la fin du XIXe, a dit que la médecine devrait devenir expérimentale. Elle l'est devenue. Claude Bernard expérimentait surtout sur l'animal, mais on expérimente aussi chez l'homme, et cela n'est pas caché puisque les expériences sont publiées dans la presse médicale. Bongrand a consulté les journaux médicaux. Deuxième constatation de Bongrand, bien sûr, les médecins ont toujours fait des expériences sur leurs malades, c'est aussi vieux que la médecine, comme les pédagogues ont toujours fait des expériences et des innovations sur les enfants, mais les médecins le faisaient jadis d'une façon empirique, sans stratégie de recherche, sans rigueur. Claude Bernard considérait d'ailleurs que les médecins sont incurablement empiristes. Mais Pasteur a importé en médecine, Bongrand le note, la rigueur expérimentale du chimiste, et l'idée d'une médecine expérimentale fait son chemin au début du siècle. C'est l'idée d'une médecine scientifiquement rigoureuse qui procède méthodiquement, qui contrôle ses résultats, qui ne généralise pas à partir d'un cas ou deux, mais qui utilise les bonnes règles de l'inférence statistique pour conclure. Travaux statistiques qui ont été faits par quelques médecins statisticiens du début du XIXe siècle. Bongrand note que si la médecine expérimentale existe déjà, à vrai dire, en notre début de XXe siècle, elle existe essentiellement chez l'animal. Il y a une médecine du cobaye, dit-il, du lapin, du chien, du rat. Mais chez l'homme, bien qu'on expérimente, on voit que les médecins sont mal à l'aise avec l'attitude expérimentale et le résultat est qu'ils expérimentent mal, honteusement, à la sauvette, soit en s'abritant derrière des prétextes thérapeutiques, soit à l'insu des personnes sur lesquelles ils font des essais. Bongrand dit qu'on hésite entre l'horreur et l'admiration, et je vous ai donner quelques citations. Il y a des hommes qui se sont attribués le droit effrayant de se servir de la chair d'autres hommes comme d'un matériel de laboratoire. Nous nous demanderons si nous sommes en présence de crimes ou de tentatives audacieuses vers le vrai en dehors des chemins battus de la loi et de la morale admise. Qu'est-ce que Bongrand a découvert dans la littérature médicale? Je peux vous laisser lire le texte pendant que je le commente. Bongrand a constaté d'abord qu'on pratique des expériences dangereuses. On l'inocula la peste à deux condamnés lors de l'épidémie du Caire en 1835. Résultat positif. On leur a donné la peste. Exprès. On fait des expériences dangereuses sur des enfants, sur des femmes enceintes ou allaitantes, sur des pauvres à l'hôpital public. La rougeole, Temen en 1816, à l'instigation de Tuessing, inocule sans succès à des enfants les larmes à des enfants. Les larmes, le sang, le mucus nasal, la sueur, les squames épidermiques des malades. Femme allaitante. La syphilis. Il y a eu d'innombrables expériences d'inoculation de la syphilis pour voir. Padova inocule sans résultat le lait d'une syphilitique à quatre nourrices saines. Voss, à l'hôpital de Kalinkin, fait la même expérience sur 4 prostituées consentantes âgées de 13, 15 et 16 ans, un seul résultat positif. On a donné la syphilis exprès à une jeune femme. Bongrand déplore l'expérimentation sur les femmes, les enfants, les pauvres. Par contre, il admet assez facilement, reflétant en ça sûrement une opinion de son époque, l'expérimentation sur les idiots, comme il les appelle, il y a des arriérés mentaux, sur des mourants, sur des condamnés à mort en échange d'une commutation de peine, sur les bagnards de Cayenne, car de toute façon, ces vies sont perdues et il vaut mieux qu'elles servent. Encore une constatation de Bongrand. Beaucoup de ces expériences ont une qualité scientifique faible. Elles sont peu démonstratives. On ne peut rien en tirer. Ainsi, l'inoculation du paludisme. Grassi, Bignani et Bastigliani firent piquer des sujets sains par des anopheles qu'ils avaient infectés en leur faisant piquer auparavant des paludiques. Les individus ainsi piqués contractèrent le paludisme. Mais ces expériences furent faites dans la campagne romaine, foyer de malaria. Donc on ne peut pas savoir si l'on contractait naturellement ou par le médecin expérimentateur. La position de Bongrand est que si on admet qu'il faut expérimenter, il faut le faire bien, c'est-à-dire avec un plan expérimental, avec un contrôle collectif, c'est-à-dire en substituant une commission scientifique à l'expérimentateur isolé. Et il pense qu'en fait, il faut expérimenter si on veut faire progresser la connaissance, si on estime que c'est un bien. Car l'expérimentation sur l'animal ne suffit pas à nous enseigner les maladies humaines. Mais est-ce moralement admissible ? Bongrand a consulté des juristes. Les juristes lui ont dit que ces actes d'expérimentation relèvent, ça pouvait être quelquefois une hécatombe. Regardez, Domingo Ferrer crut trouver en 1883 le germe de la fièvre jaune. L'auteur inocule à 60 individus un liquide de culture atténué de ce microbe. 30 furent infectés, 13 moururent. Bongrand a consulté des juristes, donc. Les juristes lui ont dit « Ces crimes devraient être punis comme coups et blessures ou comme violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, voire comme homicide. » Certains médecins ont été poursuivis, comme ce médecin de Reims qui, je cite, « profite du sommeil de ses malades pour leur inoculer des cancers. » C'est à l'occasion d'une expérience de ce type qu'aux États-Unis, dans les années 1960, la problématique bioéthique est ressurgie. Mais la vieille Europe avait inventé ça beaucoup plus tôt. Cependant, les juristes concèdent que les poursuites de médecins sont rares. Ces expériences sont bien tolérées socialement. Bongrand, lui, voudrait qu'il y ait un contrat entre le sujet et l'expérimentateur qui garantirait le consentement préalable des sujets d'expérience et qui prévoirait d'éventuelles compensations pour les risques encourus. Mais il n'existe rien de tel au début du siècle. Si la loi est relativement impuissante, que dit la morale ? Comment former son jugement moral sur ces actes expérimentaux ? Bongrand a interrogé des prêtres, un pasteur, des philosophes, des médecins, et il a regardé les romanciers qui ont mis en scène des médecins. Chez les médecins, on parle peu des aspects moraux. Le grand médecin Trousseau a signalé qu'il peut y avoir à l'hôpital abus de pouvoir de la part du médecin hospitalier auquel les malades sont subordonnés. Les médecins sont peu bavards. Les théologiens sont les plus disers. Ils disent que nul n'est autorisé à exposer sa vie. Ce serait un suicide. Par contre, s'exposer à certains dangers pour la science, c'est bien au regard des théologiens, à condition qu'on soit consentant. Mais dévouer quelqu'un d'autre à la science, ce n'est pas acceptable. Bongrand conclut que
La recherche implique un sacrifice de l'individu à la collectivité, qui est, selon lui, en soi immoral. Il dit que c'est la grandeur de l'homme d'accepter ce type de risque et que c'est le cas dans tous les métiers dangereux, pompiers, policiers, etc., que cela ne peut pas être imposé. Il récuse l'idée, par exemple, d'une conscription pour la recherche et il conclut son travail en disant que nous ne pouvons plus nous complaire dans une placide ignorance. Cette placide ignorance, on peut se dire rétrospectivement qu'elle a duré pratiquement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le point, presque 100 ans plus tard, c'est mon deuxième item. Aujourd'hui, vous avez peu de chances d'être recruté comme sujet de recherche à votre insu. En principe, dans tous les pays, les sujets de recherche signent maintenant un formulaire de consentement. Ce n'est pas exactement un contrat, comme Bongrand l'avait souhaité, car vous avez le droit d'interrompre votre participation à tout moment sans donner de justification ni encourir aucune sanction. Mais vous signez quelque chose. Deuxième constatation aujourd'hui, à ma connaissance, nulle part on n'expérimente plus sur des détenus, sur des personnes privées de liberté, parce qu'on estime que le consentement ne serait pas libre. Et cela dure depuis les années 70, suite à une recommandation de la Commission américaine pour la protection des sujets humains de la recherche biomédicale et comportementale, que je rementionnerai tout à l'heure. Jusque dans les années 70, la recherche sur les détenus était pratique courante, et la cessation de cette pratique a été très contestée, en particulier par des détenus américains qui tiraient des avantages de l'avenue des chercheurs dans leur vie carcérale et qui ont protesté qu'ils avaient assez de jugement pour décider par eux-mêmes s'ils voulaient ou non participer à des essais. Troisième constatation aujourd'hui, la recherche sur des personnes vulnérables, enfants, femmes enceintes ou allaitantes, malades mentaux en institution, est presque partout soumise à des conditions très restrictives. Cette recherche n'est autorisée que sur des maladies qui concernent les catégories de personnes concernées et qu'à condition qu'il y ait un faible niveau de risque. Ce qui reste, c'est une discrimination à l'égard des pauvres que déplorait Bongrand. Cette discrimination à l'égard des pauvres subsiste surtout sous l'aspect d'une discrimination nord-sud, c'est-à-dire d'une exploitation des populations du tiers-monde au profit d'une recherche qui bénéficie surtout aux pays industrialisés. Et cette discrimination, à la fin du siècle, de notre siècle, prend surtout la forme d'un manque d'intérêt des chercheurs des pays riches pour les maux spécifiques des pays pauvres. Il y a peu de recherches sur le paludisme, la bilharziose et même le sida par rapport aux besoins des pays en développement. Quatrième constatation pour aujourd'hui, un effort de réflexion éthique considérable s'est fait depuis la Seconde Guerre mondiale. Il existe aujourd'hui une éthique de l'investigation scientifique sur l'homme. Il y a des textes de référence nationaux, internationaux. L'éthique existe. Cinquième constatation, existe-t-il un encadrement juridique de ces pratiques ? Là, les solutions sont variables d'un pays à l'autre. Dans certains pays, la jurisprudence se réfère aux recommandations des comités d'éthique. Dans d'autres pays, il y a eu réglementation. En France, il y a eu une loi. On a légiféré. De toute façon, à peu près dans tous les pays aujourd'hui, les protocoles de recherche biomédicale sont soumis à l'examen de comités d'éthique recherche hospitaliers ou régionaux avant d'être mis en application. il y a là une sorte de contrôle démocratique sur la manière de chercher, on peut dire, qui a fait sortir la recherche de la semi-clandestinité où elle évoluait il y a un siècle. Le cas particulier de la France, c'est le cas d'un pays qui a légiféré. La loi française, c'est la loi de 88, dite loi Huriet, sur la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. Cette loi, je vous en ai mis quelques articles ici. Il est intéressant de noter que, d'abord, elle autorise l'investigation biomédicale à visée scientifique sur l'être humain. Ce rôle permissif de la loi a beaucoup contribué à ce que la recherche ne soit plus une activité honteuse ou semi-honteuse. Article L209.1, les essais ou expérimentations organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisés dans les conditions prévues par la loi. La loi fixe donc les conditions de la recherche. Et une première grande condition est l'information des sujets de recherche et leur consentement explicite dont la loi française prévoit qu'il doit être donné par écrit. L'information est une information que la loi veut complète, puisqu'elle dit « Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès de celle-ci doit être recueilli après que l'investigateur ou un médecin qui le représente lui a fait connaître l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée, les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme, et l'avis du comité mentionné, c'est le comité d'éthique recherche. La nature du comité d'éthique recherche est détaillée plus loin, article L209.12. Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, tout investigateur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de l'un des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale compétent pour la région où l'investigateur exerce son activité. En conséquence de cette loi, la qualité à la fois scientifique et humaine des essais sur l'être humain s'est beaucoup améliorée récemment et, dans les meilleurs cas, la fierté remplace la honte d'expérimenter. Un effort d'information du public a été fait depuis quelques années, et en particulier, la charte du patient hospitalisé s'attache, qui maintenant, dont au moins le résumé est affiché sur les murs dans les hôpitaux, hein, la charte expose les droits et les devoirs des personnes, y compris le droit et le devoir d'être attentif à la possibilité qu'en milieu hospitalier, on propose aux gens la participation à des projets de recherche. C'était mon second point. J'aborde le troisième, qui est la reconstitution très rapide des étapes par lesquelles on est passé au cours du XXe siècle dans l'élaboration d'une éthique de la recherche qui est aujourd'hui à peu près consensuelle internationalement. La première trace qu'on trouve d'une prise de conscience que l'activité de recherche devient une part de l'activité des médecins et qu'elle doit être réfléchie pour elle-même, avec son éthique propre, on trouve cette trace dans le code de déontologie des médecins prussiens dès 1900. Tout au début de notre siècle, l'industrie chimique et pharmaceutique allemande est l'une des premières du monde et elle offre aux médecins des médicaments nouveaux, anesthésiques, sulfamides, aspirines, autres antidouleurs. Elle démarche les médecins pour leur proposer des nouveautés. Et dès le début de notre siècle, le danger de collusion entre les médecins et les industriels est dénoncé publiquement en Allemagne, de sorte que les médecins de Prusse se donnent comme règle en 1900 que lorsqu'ils proposent à un malade d'essayer un produit nouveau, les médecins allemands donnent les médicaments aux patients. Lorsqu'ils proposent à un malade un produit nouveau, ils doivent informer le malade du caractère expérimental du traitement. Juste l'informer du caractère expérimental. Les médecins allemands furent aussi parmi les premiers à prendre conscience au début de notre siècle des accidents possibles de ces expérimentations hasardeuses en pratique médicale, bien que ce soit plus tard aux États-Unis que la réglementation s'est développée pour la protection des consommateurs, règle qui prévoit qu'on essaye les médicaments d'une façon systématique sur l'être humain et non pas de façon hasardeuse dans la pratique courante. Mais la première véritable réflexion sur l'éthique de la recherche se marque par un texte de 1931 qui, lui aussi, est un texte allemand. 1931, c'est la République de Weimar, c'est juste avant la montée du nazisme. Le texte des Richtlinien, des lignes directrices concernant les thérapeutiques nouvelles et l'expérimentation scientifique sur l'homme, a été promulgué par une circulaire du ministère de l'Intérieur et le ministère allemand prévoyait que les médecins, lors de leur entrée en fonction, devaient s'engager à respecter les directives contenues dans le texte. Il y a donc là l'ébauche d'un serment recherche pour les médecins, d'un serment de correction éthique dans la recherche qui serait l'équivalent pour les soins du serment d'Hippocrate. Et que disent les directives de ce conseil allemand? D'abord, elles disent que le médecin doit savoir distinguer entre un nouveau traitement qu'il imagine pour un malade particulier, pour lequel il n'a pas de solution standard, et dont il doit évaluer la nocivité ou le bienfait possible pour ce malade, il doit distinguer ce nouveau traitement, cette innovation qu'il fait pour le traitement d'un malade, de l'expérimentation scientifique proprement dite. L'expérimentation scientifique a pour but non pas de sauver un malade particulier, mais d'acquérir une connaissance générale. Le texte le dit. Dans le cas d'une expérience scientifique, le but est donc non pas le bien du malade, mais le savoir. Le texte allemand dit « Le sujet doit alors être consentant et il est interdit de faire ce type de recherche sur des enfants ou des personnes âgées de moins de 18 ans ou sur des personnes mourantes. » N'empêche, ce texte allemand, promulgué par un ministère de l'Intérieur, affirme officiellement pour les médecins le droit d'expérimenter, pour la science. Mais la seconde étape est l'étape décisive au cours de notre siècle, et celle du procès de Nuremberg, du second procès de Nuremberg, États-Unis contre Karl Brandt. Ce qu'on appelle le code de Nuremberg figure dans les attendus du jugement prononcé par le tribunal de Nuremberg dans ce procès, et il consiste dans l'énumération de 10 principes concernant l'expérimentation humaine, énumération qui est précédée d'une déclaration sur les raisons de ne pas condamner absolument toute expérimentation humaine, et énumération qui est suivie d'un exposé des motifs du jugement, et où il est dit que les accusés, dont plusieurs médecins nazis, ont violé toutes les règles d'une expérimentation scientifique civilisée. Ils ont recruté des sujets sous la contrainte, ils ont infligé la souffrance et la mort, et cela sans justification scientifique sérieuse. La règle principale que nous avons apprise de Nuremberg, c'est que le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. C'est le premier article du Code de Nuremberg. Nous avons aussi appris du tribunal de Nuremberg qu'on a le droit d'expérimenter sur l'homme, mais pas n'importe comment, et que toute personne incapable de donner un consentement volontaire est en principe exclue de la recherche, puisque le tribunal a dit que le consentement volontaire est absolument essentiel. Cette leçon du tribunal de Nuremberg va être progressivement relaxée après 1947 à mesure que les médecins font valoir qu'il y a aussi besoin d'expérimenter sur des personnes qui ne sont pas entièrement capables de consentement volontaire. L'Association médicale mondiale, en 1964, promulgue la déclaration d'Helsinki. C'est là, de la part de la profession médicale, enfin, une tentative pour définir une éthique de la recherche qui, pour les médecins, est différente de l'éthique des soins, mais qui se distingue aussi peu que possible de l'éthique des soins. C'est pourquoi la déclaration d'Helsinki établit une distinction entre ce qu'elle appelle la recherche thérapeutique, qui est la recherche conduite d'après les médecins pour le bien du patient, et la recherche dite non thérapeutique, qui est conduite, d'après les médecins, pour acquérir une connaissance et non pas pour le bien du patient. Cette distinction a été très contestée par la suite, mais nous en avons un vestige dans la loi française actuelle qui distingue deux types d'expérimentation, celle avec bénéfice individuel direct pour la personne qui entre dans l'essai et celle sans bénéfice individuel direct pour la personne concernée. Le consentement éclairé de la personne est, d'après le texte de l'Association médicale mondiale, requis en principe dans tous les cas. Mais pour ce qui concerne la recherche thérapeutique, la déclaration d'Helsinki demande le droit pour les médecins de ne pas tout dire aux malades, puisque de toute façon, on expérimente pour son bien. La déclaration d'Helsinki a été plusieurs fois modifiée, régulièrement modifiée, de congrès mondial en congrès mondial de l'AMM. La première révision s'est faite à Tokyo et l'amendement de Tokyo introduisait deux clauses qui ne figuraient pas dans la première version. La première clause est, je cite, que les intérêts du sujet individuel doivent toujours passer avant ceux de la science ou de la société. Cette clause marque une résistance des médecins à l'idée d'une véritable recherche en médecine dont l'objectif serait de faire avancer la connaissance médicale. Une tendance des médecins à rabattre la recherche sur la recherche thérapeutique. L'autre innovation de la déclaration de l'amendement de Tokyo, c'est l'introduction de la notion de comités indépendants des chercheurs, qui devraient superviser les protocoles de recherche. La dernière version de la même déclaration distingue non plus recherche thérapeutique et non thérapeutique, mais recherche clinique et non clinique, la recherche combinée avec le soin et la recherche non combinée avec le soin. Mais cette déclaration des médecins est encore en cours de révision aujourd'hui pour sa mise en harmonie avec les directives de l'Organisation mondiale de la santé. Mais avant d'en venir à ces directives, je voulais dire deux mots de l'Organisation des Nations Unies et de ces deux pactes votés en 1966 mais ratifiés en 1976. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui dit que les États reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre, et que pour cela, ils vont prendre des mesures en vue d'assurer le plein exercice de ce droit, ce qui implique une recherche médicale de bonne qualité. Et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 7, souvent cité, dit « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » Cet article assimile donc l'expérimentation forcée à des traitements cruels, inhumains, dégradants. L'étape suivante de la constitution d'une éthique de la recherche est l'étape effectuée par la Commission américaine pour la protection des sujets humains de la recherche biomédicale et comportementale, qui a été créée par le Congrès américain et qui a travaillé de 1974 à 1978 d'une façon tout à fait admirable. C'est en fait le premier comité national d'éthique qui ait travaillé dans le monde. Cette commission nationale américaine a commencé par faire un état de la recherche, en particulier de la recherche dans les cas litigieux, la recherche sur les prisonniers, et elle a recommandé qu'on cesse de la faire, c'était une pratique très répandue aux États-Unis, la recherche sur les enfants, la recherche sur les personnes institutionnalisées, les malades mentaux en institution. Et la Commission nationale américaine a conclu son travail par un rapport de synthèse qui s'appelle le rapport Belmont et qui dégage les principes éthiques de la recherche sur des sujets humains. La contribution de cette commission nationale américaine a été absolument décisive dans l'élaboration de l'éthique de la recherche. En particulier, c'est elle qui a insisté pour que les médecins arrivent à distinguer clairement dans ce qu'ils font les actes de recherche des actes de soins, les actes de recherche qui éventuellement sont des traitements expérimentaux, des actes de soins qui sont l'administration de traitements standards déjà validés. La Commission américaine a aussi contribué à clarifier la notion à laquelle on recourt souvent, mais qui reste souvent floue, de balance risque-bénéfice positive. On dit que lorsqu'on propose un essai sur des êtres humains, il faut que la balance des risques et des bénéfices soit bonne. La Commission américaine dit que la bonne façon d'interpréter cette notion est que le risque ou les inconvénients de la recherche pour les sujets qui sont inclus dans le protocole doit être proportionné à l'intérêt scientifique de ce qu'on obtiendra grâce à cette recherche. Enfin, la Commission nationale américaine a popularisé l'idée que le consentement peut être négocié avec des personnes qui ne sont pas, à première vue, pleinement capables de décider pour elles-mêmes, comme des enfants mineurs ou des personnes âgées en perte d'autonomie. Après la Commission nationale américaine, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a publié des directives concernant l'expérimentation humaine en commun avec le COMS, le Conseil international des organisations médicales scientifiques. C'est ce qu'on appelle familièrement la déclaration de Manille, mais en fait le texte a été publié en 82, un an après Manille, et révisé en 93. Cette révision de 93 est actuellement considérée comme le texte principal concernant l'éthique de la recherche sur l'homme. La préoccupation dominante de l'Organisation mondiale de la santé est la constatation dans les années 1970 qu'il s'effectue un transfert de la recherche vers des régions du monde où elle peut être menée, je cite, « à moindre frais » et avec moins de restrictions que dans les pays à niveau de vie élevé qui commencent à protéger leurs citoyens contre l'éventualité d'être inclus dans des protocoles. L'OMS a fait une grande enquête dans les pays en voie de développement et l'idée directrice des recommandations de l'OMS est que le consentement réellement informé et réellement libre des sujets individuels étant un idéal peu accessible dans beaucoup de pays où la population n'est pas familière avec la culture occidentale, on devrait soumettre les protocoles de recherche destinés à être appliqués dans des pays en voie de développement à une double révision du pays d'origine du protocole et du pays d'accueil de la recherche. Double révision qui permettrait de juger, d'une part, si le protocole est scientifiquement correct et éthiquement acceptable par les standards des chercheurs des pays développés, et si en même temps, il y a une suffisante acceptabilité culturelle pour cette recherche dans le pays d'accueil. L'OMS insiste aussi sur la nécessité de garantir une protection aux sujets inclus dans les essais, une assurance contre les risques, etc. Je vais passer rapidement, parce que mon temps tourne, sur d'autres textes dont vous pouvez essayer de prendre connaissance. C'est d'une part un texte extrêmement détaillé du Conseil de recherche médicale du Canada, qui a l'avantage d'avoir une version française et d'envisager à peu près toutes les possibilités, toutes les configurations de recherche sur des sujets humains. C'est un des guides les plus détaillés et instructifs sur la recherche sur l'homme. Vous avez ensuite, du Conseil de l'Europe, une mention explicite de l'obligation de consentement pour la recherche dans la Convention européenne de bioéthique et je ferai allusion tout à l'heure à la déclaration récente à l'UNESCO du Comité international de bioéthique sur le génome humain qui montre l'élargissement des intérêts de l'éthique en notre fin de siècle. J'aborde mon quatrième point avec les grands principes de la recherche sur l'être humain. Ces grands principes ont été dégagés par la Commission nationale américaine dans ce qu'on appelle le rapport Belmont. Et il est intéressant de noter que ces principes philosophiques qui sont à l'arrière-plan des directives concernant l'investigation scientifique sur l'homme sont des principes composites et ne constituent pas une éthique qui formerait un beau système qu'on n'aurait qu'à appliquer. En fait, il n'y a pas qu'à appliquer. Il y a des conflits entre les principes. La commission américaine dégage trois grands principes. Un principe de respect de l'autonomie personnelle des sujets de recherche, aussi bien que celle des chercheurs d'ailleurs, et qui est réminiscente de l'impératif de Kant, dont vous connaissez la formulation ici mentionnée, « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité dans ta personne et dans celle d'autrui toujours en même temps comme une fin et jamais seulement comme un moyen ». Le second grand principe dégagé par la Commission américaine est un principe de bienfaisance ou un principe de non-malfaisance selon le côté sous lequel on le regarde. Sous l'aspect de non-malfaisance, c'est le vieil adage familier aux médecins, d'abord ne pas nuire, et sous le principe de sous l'angle de la bienfaisance, c'est tout le zèle médical à faire le plus de bien possible, à maximiser le bien. Ce sont là des règles de prudence qui appartiennent à ce qu'on appelle les morales du bien, par opposition aux morales du devoir que sont les morales de type kantien. Le troisième principe, qui est sous-jacent aux règles déontologiques de la recherche sur l'homme, est un principe de justice et ça a été l'originalité de la Commission nationale américaine de le dégager, un principe de justice qui faisait dire à la Commission américaine que aller expérimenter à Porto Rico les contraceptifs, qu'ensuite les femmes américaines pourraient utiliser couramment, alors que les femmes portoricaines peut-être ne pourraient pas se l'acheter, était une chose indéfendable. Que si les Américains devaient développer la pilule, ils devaient l'expérimenter chez eux, sur des femmes américaines. Ces trois grands principes ne sont pas exempts de difficultés dans l'application, comme je le disais, et je veux juste souligner l'une de ces difficultés. L'Organisation mondiale de la santé a beaucoup insisté sur le troisième, sur le principe de justice, en disant, par exemple, qu'il ne faut pas, sous prétexte que dans des pays du Sud, le consentement des personnes est incertain, qu'il ne faut pas se dispenser de faire de la recherche sur des pathologies qui affligent ces pays du Sud. Du principe de justice, l'Organisation mondiale de la santé avait tiré des règles d'équité de la recherche qui étaient, un, ce que la Commission nationale américaine avait déjà dit, on ne doit pas aller expérimenter chez les autres ce qu'on ne serait pas disposé à essayer chez soi. Deux, lorsqu'on inclut des personnes dans un protocole de recherche, on doit les assurer contre les risques qu'elles courent et qui sont dus au protocole. Trois, si une personne incluse dans un projet de recherche tombe malade du fait des contraintes du protocole, on doit lui offrir le meilleur traitement possible qui soit disponible actuellement. Cette réflexion de l'Organisation mondiale de la santé a récemment rebondi à propos des essais vaccinaux dans le sida. Il est en effet apparu que, après l'apparition des trithérapies, c'est-à-dire de traitements efficaces de la maladie sida, les pays riches tendaient à se désintéresser un peu des essais vaccinaux et ne tenaient pas tellement à les mener chez eux. Cette tiédeur a fait que l'Organisation mondiale de la santé a poussé pour qu'on fasse ces essais vaccinaux quand même et qu'on les fasse en pays en voie de développement, qui ont le plus besoin qu'on développe des vaccins contre le sida parce qu'ils ne peuvent pas se payer les trithérapies. Cependant, cela revient à aller contre la règle précédente qu'on ne doit pas aller expérimenter chez les autres ce qu'on n'est pas disposé à expérimenter chez soi, puisque ce sont des équipes de chercheurs de pays développés qui vont conduire des essais en pays pauvres. Deuxièmement, on a beaucoup discuté à l'OMS, il y a une commission spéciale pour ça, de la possibilité de pratiquer ces essais de futurs vaccins ou de candidats vaccins contre le sida sans assurance pour les sujets inclus et en leur offrant, s'ils tombaient malades au cours de l'essai, le meilleur traitement disponible dans leur pays et non pas dans les pays développés. Où l'on voit que cette morale des droits de l'homme souffre des entorses quelquefois qui sont dues à des nécessités économiques et qu'elle a connu des adaptations, qu'elle est en train de connaître des adaptations sur lesquelles il y a beaucoup à réfléchir. C'était mon quatrième point, les grands principes. Je vais maintenant très rapidement faire une petite incursion du côté des autres sciences humaines que la biologie humaine ou la médecine, à savoir la psychologie, l'ethnologie, l'anthropologie, la sociologie, etc. La citation que j'ai mise en exergue ici est empruntée à Peggy Gold et elle est un commentaire sur une toute petite affaire qui a beaucoup fait parler, qui s'est produite dans les années 50 et qui a rebondi dans les années 70 à propos d'autres affaires semblables. Cette petite affaire est la suivante. Un chercheur, anthropologue, se fait un jour hospitaliser dans un service de psychiatrie, non qu'il soit malade, mais avec la complicité d'un chef de service de psychiatrie de Yale, pour faire un travail d'anthropologue. Il s'appelait William Codill, et une fois hospitalisé dans ce service, il avait ce que les psychiatres ont appelé un comportement d'écriture, il prenait des notes tout le temps. Le diagnostic a été qu'il avait une névrose de caractère et on lui a prescrit une psychothérapie. La phase dissimulée de cet essai, et c'est l'anthropologue qui étudie le médecin, la phase dissimulée a duré 8 semaines et l'anthropologue s'est senti si mal à l'aise qu'au bout de 8 semaines, il a avoué qu'il n'était là que pour observer l'interaction entre les psychiatres et leurs patients dans ce service. Cette révélation a plutôt amusé les malades, mais elle n'a pas du tout amusé les médecins, qui ont éprouvé à l'égard de ce chercheur un ressentiment furieux. Des psychiatres qui trouvaient tout naturel d'observer leurs malades derrière des glaces sans teint se plaignent qu'un anthropologue vienne incognito les observer eux. Ça, c'est une insulte à leur dignité, alors que ce qu'ils font à leurs malades n'est pas apparemment ressenti comme une insulte à leur dignité. Il y a eu d'autres hospitalisations, d'autres ethnologues ou anthropologues dans des services de psychiatrie, et cela a remué toute une réflexion sur l'éthique de la recherche dans les sciences humaines. Car on a reproché beaucoup aux anthropologues, ethnologues, sociologues, de faire de la recherche incognito, ou pire, d'avoir recours aux mensonges pour extraire des informations des personnes qu'ils veulent étudier. Enregistrer des gens au magnétophone, faire un montage de leurs propos, publier une traduction de ce montage assortie d'une interprétation dans une langue que les gens ignorent. Ça a été une pratique admise très bien chez les ethnologues dès les années 50. Les sujets étudiés étaient des primitifs, comme on dit, ou des habitants pauvres des faubourgs de Mexico, comme ce fut le cas Lors du travail d'Oscar Lewis, qui a donné lieu à la publication d'un magnifique livre d'ailleurs, Lewis s'était installé dans une famille dans les faubourgs de Mexico. Il est devenu l'ami de la famille, il a parlé avec tout le monde, il a connu tous les secrets de famille, les secrets des amis, etc. Et un beau jour, il a publié un livre qui a été traduit en français chez Gallimard, 63. Et ce livre a suscité tout un débat chez les ethnologues, car Margaret Mead a participé à ce genre de débat, par exemple. Car on peut juger qu'on fait une injustice à l'égard de ces personnes, de cette famille, lorsque on tire avantage d'informations qu'on a extraites d'une amitié que ces gens croyaient sincère et dont ils ne savaient pas du tout que c'était une amitié au service de la recherche, pour ensuite publier quelque chose sur la famille, publier des secrets de famille dans le cadre d'une autre communauté culturelle. Les psychologues se sont mêlés de l'affaire et, par exemple, les expériences de Stanley Milgram, le psychologue social, dans les années 60, qui ont été illustrées par un film que vous avez peut-être lu, I comme Icar. Ces expériences avaient pour but de montrer que l'autorité scientifique donne un pouvoir, que le pouvoir mène à l'abus de pouvoir, et que l'abus de pouvoir peut aller chez des chercheurs jusqu'à la cruauté. Vous savez, Stanley Milgram avait monté une expérience mensongère. En apparence, c'était un bonhomme derrière une vitre qui était supposé apprendre une tâche par conditionnement négatif, et à chaque fois qu'il se trompait, on lui envoyait une décharge électrique pour le punir, et à chaque fois, la décharge était plus forte. Puis de ce côté-ci de la vitre, il y avait le chercheur en blouse blanche, impeccable, avec des gens qui attendaient. Et il leur disait, tenez, appuyez, appuyez, appuyez. Oui, il s'est trompé, appuyez. Et les gens, sous l'autorité du chercheur, continuaient d'appuyer tout en étant malades, visiblement, parce qu'ils pensaient qu'ils faisaient mal à l'autre. En fait, c'était un comédien qui jouait la douleur. Et Milgram voulait montrer que la science mal utilisée mène à l'abus de pouvoir. J'ai pu constater moi-même, au début des années 90, que lorsque la République de Guinée s'est donné un code de la recherche en santé, avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé, certes, il y avait à Conakry une méfiance des gens à l'égard des médecins qui expérimentaient à l'hôpital, et dont on considérait facilement qu'ils étaient vendus à l'industrie pharmaceutique. Mais il y avait beaucoup plus d'agressivité et de mauvaise humeur à l'égard des ethnologues qui avaient parcouru certaines régions de Guinée et dont les Guinéens disaient « ils nous volent nos secrets ». Et ils se font une réputation dans les congrès internationaux en dévoilant nos secrets. Il y avait à propos des ethnologues un sentiment de dépossession culturelle, de trahison. Et c'est cet ensemble de problématiques qui s'est révélé lorsque les sciences humaines ont commencé à réfléchir à la suite des sciences biomédicales sur leur éthique de la recherche. Il y a eu beaucoup d'articles sur le rôle de la tromperie dans les sciences humaines et sur la légitimité de tromper, de mentir pour obtenir des informations. On trouve un certain nombre de réflexions là-dessus dans des textes dont je mets ici les références, et en particulier dans le journal IRB, qui a publié des débats, Deception in Social Research, la tromperie dans la recherche sociale. Il faut que je termine. Alors, je vais passer complètement mon point concernant la recherche sur le génome humain. Et je vais sauter, je vous prie de m'excuser, et je vais conclure par un retour à l'expérimentation biomédicale, au sens le plus conventionnel du terme, en donnant quelques échos du vécu de la recherche par ses acteurs. Et je trouve que je coordonne actuellement une petite équipe de jeunes chercheurs qui s'intéressent à la pratique du consentement dans la recherche biomédicale aujourd'hui en France. Ils ont interrogé successivement des témoins de la recherche médicale avant, qui avaient connu la recherche en France avant la loi Huriet. Et puis, ils ont interrogé des personnes qui aujourd'hui sont des acteurs de la recherche, promoteurs, membres de comités de protection des personnes, investigateurs, sujets actuellement sous protocole. Et voici quelques échos des entretiens. D'abord avec des personnes qui sont sujets d'essai, ensuite avec des investigateurs. Les personnes actuellement incluses dans des protocoles expérimentaux nous ont montré le visage d'une grande docilité quand ce sont des personnes malades. Les malades tendent à faire confiance aux investigateurs médecins. Ils exercent, semble-t-il, assez peu leur liberté de choix. Ils ne font pas clairement la distinction entre la recherche et le soin. Vous voyez ici quelques citations. « J'ai une relation de confiance avec le docteur. C'est énormément fondé sur la confiance. Je crois que si le docteur m'avait laissé réfléchir plus longtemps, je ne sais pas si j'aurais signé. Ces personnes malades entrevoient quelquefois qu'il y a dans la situation de recherche comme un engagement contractuel. Vous lisez, le patient, s'il vous plaît, le patient donnant-donnant. À partir du moment où on prend l'engagement et la responsabilité de suivre un protocole, les laboratoires, en contrepartie, ont le devoir d'informer la personne qui est rentrée dans un protocole des résultats. Ces personnes incluses dans des essais sont surtout, semble-t-il, sensibles aux avantages et aux inconvénients au jour le jour de la situation d'essai, aux contraintes de l'essai, mais aussi aux privilèges que donne la situation d'essai. Ainsi, la personne qui dit c'est ici en bas, vous le voyez. Je pense que quand on fait partie d'un protocole, on est plus chouchouté. Lorsqu'on interroge les investigateurs, on a la vision complémentaire de médecins expérimentateurs qui confirme que le consentement réellement éclairé des sujets de recherche est rare, que ça prend du temps et qu'il y a souvent dans le consentement donné par le sujet quelque chose qui repose sur la confiance et qui est un élément de semi-tromperie ou de flou. Ainsi, l'investigateur qui dit « Je crois que c'est avant tout une question de climat de confiance » ou celui qui dit « c'est malheureux à dire, mais on peut faire signer n'importe quoi aux gens, le seul problème, c'est d'avoir un bon contact. Si vous connaissez le malade, si vous lui expliquez bien, etc., le type, il ne lira même pas le papier. » La distinction entre acte de recherche et acte de soins, il arrive qu'elle soit claire chez les investigateurs. Nous avons trouvé quelques investigateurs mutants, surtout à l'hôpital, où la recherche est valorisée comme telle, qui, pour eux-mêmes, font très bien la distinction entre ce qui est soin du malade et ce qui est acte de recherche sur le malade. Mais souvent, la distinction entre recherche et soins n'est pas faite par les investigateurs, en particulier en pratique de ville, où on sent la gêne des praticiens qui savent bien que ce n'est pas la même chose, puisqu'ils sont payés pour l'acte de recherche, mais qui minimisent l'aspect recherche. Ainsi, le médecin de ville qui dit « Il n'y a aucune différence, pour moi ce sont toujours des soins », ou bien « Je ne me sens pas chercheur, je ne distingue pas, moi ce qui m'intéresse c'est le soin », ou bien celui qui dit « Nous sommes en bout de chaîne, on est les médecins soignants qui proposons des essais ». Un de mes jeunes chercheurs, et j'achèverai là-dessus, un de mes jeunes chercheurs me disait hier à peu près ceci. Le jour où, en ville, un patient pourra dire à son médecin traitant, peut-être en plaisantant, « Docteur, d'accord pour votre protocole, mais on partage. Vous êtes payé pour, partageons. » Et, ajoutais-je, le jour où, à l'hôpital, les médecins répondront clairement à la question « Docteur, ce prélèvement de sang, ou cet examen, ou ce produit que vous me faites avaler, c'est pour mon traitement ou c'est pour votre recherche ?» Le jour où les médecins répondront clairement à cette question, alors ce jour-là, comme dit mon jeune investigateur, on aura changé de monde, on sera au XXIe siècle, et on aura acculturé l'investigation scientifique sur l'être humain. Je vous remercie.
Bien, merci Anne Fagot-Largeau. Vous avez posé effectivement une question qui nous ouvre une perspective très large. Alors, allons-y, il reste très peu de temps pour le débat. Qui souhaite poser la première question ? Je vous en prie, oui.
Merci, bonjour. Nous avons entendu dans cette salle, il y a quelques jours, un expert scientifique s'exprimer sur l'indépendance des experts. Je voulais vous demander comment sont nommés les comités consultés lors d'une expérimentation au terme de la loi française et ce que font ces comités pour se préserver des éventuelles pressions de groupes médicaux ou autres.
Le législateur avait initialement prévu que les membres des comités de protection des personnes étaient tirés au sort comme les jurés d'assises. Et puis, ça n'a pas marché, ce qui fait que maintenant, ils sont désignés par les préfets. On peut considérer qu'ils sont, par leur mode de désignation, indépendants des investigateurs. Toutefois, il est vrai que lorsqu'un comité fonctionne dans un hôpital et que des chercheurs qui travaillent dans l'hôpital soumettent leur protocole au comité qui est là, ils se connaissent. Et ça rend plus difficile le rejet de certains protocoles par le comité. Le législateur avait certainement voulu, par le tirage au sort, assurer une indépendance complète et vraiment un contrôle démocratique des citoyens sur les protocoles recherche, admissibles ou non admissibles. Ça fonctionne comme ça peut, c'est un travail difficile. Les volontaires sont les bienvenus.
Monsieur.
Bonsoir, madame. C'est moi.
Oui, allez-y.
Bon, c'est pas du... Je suis en bas, je suis là. C'est pas du tout parce que quand j'étais étudiant, je faisais des expériences avec un laboratoire de parfum féminin, dont je tairais le nom. J'aime pas. Ils auraient peut-être pu prendre des femmes. Mais je voudrais vous demander, en cas de maladie chez le sujet, chez le cobaye, qu'est-ce qu'il peut faire ? Quels sont les recours dont il dispose ?
Vous voulez dire si le protocole de recherche cause un accident chez la personne expérimentée ?
le promoteur de la recherche est tenu par la loi française de prendre une assurance pour les sujets. Il est arrivé que dans le cadre de protocoles de recherche, il y ait non seulement des accidents, mais des morts. Ça arrive. Et le promoteur est tenu d'assurer les sujets de recherche. Il n'y a pas d'expérimentation sans risque.
Bonsoir, madame. On lit parfois dans la presse que dans certains pays, on organise les prélèvements et même la vente d'organes sur les condamnés à mort. On est très, très loin de tout ce que vous dites là. Autrement dit, est-ce que les bonnes résolutions de l'ONU sont uniquement réservées à un tout petit nombre de pays ou est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les étendre ?
Le prélèvement d'organes sur des condamnés à mort a été en particulier évoqué à propos de la Chine. C'est pas de la recherche, c'est du soin. Il y a un marché pour ça. Il y a des gens qui veulent se faire greffer, qui ont besoin de se faire greffer et qui sont demandeurs, même à très haut prix, de reins, de blocs cœur-poumon, etc. C'est du soin, c'est pas de la recherche.
Vous m'entendez là ?
Ça Attendez, non, il y a quelqu'un qui pose une question.
Ça n'a pas l'air de marcher. Si, ça
marche. Oui, je voulais poser la question. Dans les droits, dans les philosophies, on constate qu'on distingue, Cicéron, Montesquieu, tous ces gens-là, disaient qu'il faut distinguer le droit et l'abus du droit. Alors comment peut-on faire cette distinction après ce que vous avez expliqué ? C'est bien certain que tout ça, ça relève beaucoup des abus. Mais alors, quelle serait la façon dont on pourrait, vous venez de parler de le contrôle démocratique, etc., ici, dans ces séances, déjà, on a constaté un divorce entre l'idée qu'on se fait de la démocratie et son efficacité. Alors, je pose la question, comment faire la distinction et comment peut-être trouver un biais de solution les régimes démocratiques,
etc. À ma connaissance, je ne sais pas si je réponds directement à votre question. À ma connaissance, il n'y a, depuis que la loi française a été promulguée, il n'y a encore eu aucune affaire judiciaire, c'est-à-dire aucune inculpation d'une équipe d'investigateurs pour des accidents qui se seraient produits du fait de la recherche. La régulation qui est organisée par la loi agit plutôt en amont, comme une dissuasion à l'égard des investigateurs imprudents qui seraient tentés de se lancer dans des expérimentations douteuses. Et elle met toutes sortes de barrières à cette imprudence, ce qui, je l'ai noté, a fait considérablement monter le niveau de qualité de la recherche. L'obligation en particulier de préparer, de rédiger entièrement son protocole de recherche, qui vaut non seulement pour la recherche biomédicale actuellement, mais depuis la dernière révision de la loi Hurier, aussi pour la recherche en psychologie. La loi Hurier inclut la psychologie maintenant. L'obligation de rédiger entièrement son protocole et de le soumettre avant toute application sur l'homme à un comité qui le lit et qui donne son avis est une incitation pour les chercheurs à bien penser leur recherche. C'est surtout comme ça, je crois, que la régulation agit.
Bien. Madame, c'est la dernière question que nous allons prendre.
Oui, j'ai deux questions. La première est vraiment anecdotique et la seconde est venue à la suite de l'emploi du terme « groupe de pression et indépendance » de l'expert que monsieur a employé comme terme. Alors la première, elle concerne une date qui a été citée dans une conférence où il y avait plusieurs personnes analogues à celle-ci, qui était la date de 1949, où, si je me souviens bien, une loi allemande avait rétabli la créativité, et le terme créativité m'avait marqué, du chercheur dans la lignée de Nuremberg, pour éviter les dérives qui avaient eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il avait été dit que les principales réflexions de la communauté européenne se basaient sur cette loi allemande et qu'en fait, le libre arbitre, c'est mon terme, mais la créativité du chercheur, elle était assez débridée et ça posait des problèmes dans la terminologie. Alors, je n'ai pas du tout retrouvé mention de cette loi dans les nombreuses que vous avez citées. Pourquoi ? Est-ce que cette information était biaisée quand je l'ai entendue ou...
Là, je ne vois pas à quoi vous faites allusion.
Je suis sûre de la date de 49. Maintenant, la personne a pu faire une erreur entre 47, 48, 49.
Oui. Non, j'aurais...
Donc, affaire à élucider par ailleurs, je ne sais pas du tout. Enfin, moi, je suis
j'aurais
sûre
aimé évoquer la créativité à propos de la recherche sur le génome, puisque en cette fin de siècle, avec la recherche sur le génome, on voit se profiler une investigation sur l'homme qui pourrait être créatrice.
C'est-à-dire,
ou sur l'embryon.
Je vous en prie.
Qui pourrait être créatrice. C'est-à-dire qui pourrait nous amener à vouloir créer des êtres humains. On fait des plantes qui sont résistantes à certaines maladies ou à certaines attaques d'insectes ou à certains pesticides. On pourrait vouloir faire des êtres humains qui soient protégés génétiquement contre certaines maladies. Ce serait une façon créative de tourner la recherche. Actuellement, la recherche sur l'embryon a été interdite par la loi française de 1994. On a hautement dit en Europe que le clonage humain à visée reproductive était interdit. On a mis des barrières, mais on voit que la possibilité d'une recherche créatrice à propos de l'espèce humaine est possible. C'est ça que vous vouliez ?
Enfin, de toute façon, moi, je ne vous fais que vous rapporter quelque chose qui a été dit à une tribune et sur lequel je n'ai pas d'autres informations. Mm-hmm. Bon, le second volet de ma question me préoccupe plus, y compris à titre personnel. J'ai entendu parler, j'ai même lu, au sujet d'un protocole qui serait en cours sous la pression d'un ou deux malades pour une pathologie qui, en fait, n'est même pas prouvée ni vérifiée. Et... suite à un appel dans 60 millions de consommateurs, etc. Bon, alors, je n'avais pas pensé à cet aspect-là de la question, mais monsieur, en posant la sienne, m'y a amené. Comment se fait-il que des malades puissent arriver à convaincre des experts normalement indépendants d'initialiser un protocole de recherche et créer, avec 60 millions de consommateurs, une volonté d'avoir un protocole de recherche pour quelque chose qui est encore moins sûr que les présupposés sur la maladie du prion, par exemple, pour ne pas évoquer le cas réel. On pourrait parler par ailleurs. Je rattacherai ceci à quelque chose qui me préoccupe depuis fort longtemps. Par exemple, il y a eu dans Le Parisien un article que tout le monde a peut-être lu, enfin, on en a beaucoup parlé aussi sur les ondes cette semaine, sur l'implant d'électrodes dans le cerveau relié à un ordinateur avec un œil artificiel qui permet à un non-voyant de voir les ombres noires et blanches et se déplacer dans le métro, avoir un télémètre qui lui permet de voir les distances, et enfin, c'est à peu près ça. Voilà. Alors, il y a par ailleurs une directive de la communauté européenne, si je me souviens bien, date de 92, qui n'a jamais été transcrite en droit français, si ma connaissance est bonne, qui indique qu'on ne doit pas être soumis à un certain nombre de rayonnements. Ça doit être en dose limitée. Alors, compte tenu de ce qu'on passe comme détecteur, etc., ça, c'est un autre problème. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis tout ça.
Est-ce que vous pouvez poser votre question,
Oui. Alors, la question, elle est, de qui relève la commercialisation de ce genre de système? Parce que là, on n'est pas dans les expériences.
Bien, nous avons compris votre question, madame. Merci. Voilà.
Parce que,
Écoutez,
le système pour les non-voyants, il est prévu pour être commercialisé à l'automne.
Nous avons compris votre question, madame.
Le malade américain qui s'est soumis à cette expérimentation que nous avons tous vue à la télévision, il avait signé certainement un formulaire de consentement très détaillé. Quant à la commercialisation, à mon avis, elle est encore loin. Mais le début de votre question, c'était différent. Des malades individuels qui obtiennent d'investigateurs un projet de recherche, ça m'étonne. Mais des associations de malades qui ont un certain contrôle sur la production de la recherche, ça existe, et des associations de malades qui se portent promoteurs de recherche, ça peut exister. Les associations de malades du sida jouent un rôle très important dans l'élaboration des protocoles de recherche maintenant, pas seulement en France, dans beaucoup de pays. Vous avez tous aussi regardé le Téléthon et vu que dans la recherche génétique, les associations de malades jouent un rôle incitateur considérable. Mais il s'agit d'associations, il ne s'agit pas d'individus.
Bien,
et elles peuvent acquérir une grande expertise.
Bien, merci. Nous devons rendre...